Notre prédication ce matin sera basée dans l'évangile de Luc, au 13e chapitre, à partir du 10e verset jusqu'au 17e. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, il se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré comme guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours de sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen.
Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je remercie le conseil d'église de m'avoir invité à la prédication. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel magnifique texte que celui qui a été lu. Est-ce que vous avez vu le rapport entre les deux textes lus, dans le psaume 146, puis dans l'évangile de Luc? Il y a un rapport, il y a un point commun en tout cas. Il est dit au psaume 146, « L'Éternel redresse ceux qui sont courbés ». Dans la version lue, c'était « L'Éternel relève ceux qui fléchissent », je crois, ou « Celui qui fléchit ». Et puis, vous voyez que dans cette synagogue, Jésus va redresser une personne courbée. Les 4 évangélistes signalent de nombreuses guérisons accomplies le jour du sabbat. Et c'est à propos qu'ils le font. C'est à croire que Jésus provoque. Que Jésus provoque l'ordre établi. Ou qu'il veut amener une nouvelle loi. Mais je crois que ce que les évangélistes veulent mettre en évidence en relevant toutes ces guérisons le jour du sabbat, c'est que l'essence de la loi, elle est dans l'amour du prochain, et non dans les observances extérieures. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19, 18. Tu aimeras même l'étranger comme ta propre âme, Lévitique 19, 34. Ça, c'est la Torah, la loi de Moïse, confirmée par les prophètes. Osée dit, chapitre 6, « Je veux miséricorde et non pas sacrifice. » Et Jésus dira à une occasion aux pharisiens, « Allez et apprenez ce que veut dire, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. » Un des versets les plus frappants dans le texte qui a été lu se trouve au verset 12. Verset 12, je le lis. « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Peut-être qu'avant de l'avoir guéri, il l'a interrogé. Vous savez tous que les évangiles sont très très sobres. Et parfois on a envie de dire c'est qu'ils sont presque avares d'informations. Mais moi je crois que c'est parce que Dieu nous veut nous inciter à creuser, veut nous inciter à lire entre les lignes, veut nous inciter aussi à imaginer. Parce que si le Verbe s'est fait chair, si le Verbe Dieu, la parole éternelle, s'est manifesté en homme, eh bien c'est bien que Dieu voulait donner des traits visibles à la divinité. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Alors voilà, comme je disais, peut-être Jésus l'a-t-il interrogé avant ou après l'avoir guéri, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, nous savons que dès qu'il l'a vu, lorsqu'il l'a vu, il lui adressa la parole. Lorsqu'on adresse la parole à quelqu'un, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous levez les yeux vers celui qui vous parle, voyez? Et cette femme, il est dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée depuis 18 ans et ne pouvait pas du tout se redresser. Alors, c'est intéressant comme détail. Ça veut dire qu'elle est vraiment captive d'une infirmité. Elle est vraiment dans une condition permanente, extrêmement désagréable, handicapante, et peut-être même humiliante, puisque être courbé du dos, eh bien, ça abaisse. Et Jésus lui adresse la parole. Peut-être elle s'est dit, mais est-ce bien à moi qu'il parle? Est-ce bien à moi qu'il s'adresse? Et puis, ça peut être pareil pour nous. Quoi qu'il puisse nous accabler, hein, nous pouvons être sûrs que celui dont le prophète Ésaïe dit qu'il nous appelle par notre nom, eh bien qu'il se tient près de nous, et puis nous pouvons lever les yeux vers lui. Il s'approche de nous, il dit notre nom. Il s'approche de moi, il dit mon nom, il m'appelle. Cette femme, elle n'en pouvait peut-être plus de s'endolorir la nuque pour regarder autour d'elle. Peut-être que son seul horizon, c'était la pointe de ses pieds, voyez-vous. J'ai eu un accident au cou récemment, et puis tout à l'heure, quand le texte montait, là, je disais, ah ben oui, voilà, je me trouve peut-être un peu dans cette situation. Ce jour-là, un homme parle à cette femme, liée, courbée depuis 18 ans. Là, au milieu de la synagogue. Ça me rappelle une autre guérison que Jésus opère un jour de sabbat. Il guérit un homme qui a la main sèche. Et il est dit que Jésus l'appela et le fit tenir là, au milieu. Alors, pour un homme, ça va. Mais pour une femme, vous savez, dans les synagogues, on sépare les hommes et les femmes. Et puis les femmes, surtout, elles n'ont rien le droit de dire. Et aujourd'hui encore, dans les synagogues orthodoxes, les femmes sont sur le balcon, sur la galerie, séparées des hommes. Et puis voilà que là, un homme s'adresse à elle au milieu de la synagogue. Un homme. Alors, sans doute a-t-elle levé les yeux. Mais qu'a-t-elle vu? Eh bien, elle voit d'abord un regard. Elle a vu le regard de l'amour, le regard de Jésus. Et quand Jésus regarde, vous savez qu'il est dit dans l'Apocalypse, dans cette vision de l'apôtre Jean, quand il voit le Christ au début de l'Apocalypse, il est dit qu'il le vit, ses yeux étant comme des flammes de feu. Voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Un verset dans le psaume 62 dit ceci, « Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à Dieu, à toi aussi Seigneur, la bonté. » La force et la bonté. un feu dans le regard de Jésus, fort et qui fait du bien, fort et qui apaise. Alors, une joie, une compassion, une espérance illimitée remplissent le regard du Seigneur. Et quand il lui dit « Femme, tu es délivrée », vous savez que « femme », dans le nom de Jésus, dans la bouche de Jésus, c'est pas du tout, mais pas du tout péjoratif quand Jésus dit « femme ». Vous savez que Jésus a dit « femme » à sa mère, et que Jésus, étant fils de la Torah, honore sa mère, évidemment, sur cette terre, par-dessus tout, avec son père terrestre. Il les honore. Mais il dit à sa mère, à une certaine occasion, « femme », avec un certain propos. Quel encouragement dans la bouche de Jésus. C'est rien à voir avec nos catégories de langage. Quand Jésus dit « femme », ça veut dire « toi créé à l'image de Dieu ». Homme et femme, il les créa. Il les créa à son image. Voyez ? Toi créé à l'image de Dieu. Voilà ce que Jésus est en train de lui dire. Toi qui restes honoré de cette identité. Toi qui es beaucoup plus qu'une infirme. Toi qui es beaucoup plus qu'une diminuée. Toi qui es beaucoup plus qu'une dépressive, peut-être. Voyez tout ce qu'on peut entendre. Femme, femme. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Ah, elle prie à haute voix dans la synagogue. Mais ça ne se faisait pas, n'est-ce pas? Ça ne se faisait pas qu'une femme prie à haute voix dans la synagogue. Eh bien, j'aime beaucoup, beaucoup le dernier chant, l'avant-dernier, « À l'agneau de Dieu sur la gloire ». Vous voyez, parce que là, on a parlé de ce mur qui est tombé entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, entre les non-juifs et les juifs, et puis entre gens de toutes nations, mais aussi entre hommes et femmes, bien sûr, bien sûr. Alors, dans l'Apocalypse, Dieu est célébré, des palmes à la main, Dieu est glorifié, et puis c'est une voix extraordinaire, c'est comme les eaux de la mer, voyez, et c'est presque tonitruant, tous les peuples qui vont célébrer leur Dieu, avec une joie que personne ne peut retenir. Ah, cette femme, elle était enchaînée, mais là, sa louange se déchaîne. Je me souviens d'un homme qui souffrait beaucoup de crise d'identité, il avait des pulsions homosexuelles très fortes et il avait eu une relation avec son père catastrophique et il était très blessé dans son cœur, dans son âme. Il me dit qu'un jour, il était en voyage en Suisse centrale et puis il voit un lieu de pèlerinage, enfin il s'est dit tiens je vais visiter ce monastère et une abbaye et puis là il rentre dans une église, dans l'église de l'abbaye. Et tout à coup, je ne sais plus dans quelles circonstances exactement, mais il fond en larmes. Il fond en larmes. Il était touché, évidemment, son âme était en travail perpétuel. Il avait de grandes souffrances intérieures, une grande détresse. Il était en quête constante. Et puis là, dans cette église, il fond en larmes. Et la grâce le visite. Il est touché. Et puis quelqu'un vient derrière lui et qui lui dit « Monsieur, un peu de tenue, vous êtes dans une église. » Vous voyez, il y a la bienséance des hommes et puis il y a la bienveillance de Dieu. Voilà, vous êtes dans une église. Quelqu'un me disait ben, « Moi, quand je vais arriver au ciel, mais je vais jubiler. Déjà, je jubile à cette idée d'arriver au ciel. Mais si un ange vient me taper sur l'épaule et me dit « Mais calme-toi, on est au ciel. » Mais pas du tout, pas du tout. Loue ton Dieu, toi qui as été délivré. Célèbre-le, glorifie-toi en lui. Elle se redressa. Voyez, le statut de la femme face au caractère oppressif de l'homme. C'est pas que dans l'islam. On pointe du doigt l'islam, c'est un peu facile. Bien sûr, on peut voir des choses. Je me souviens du missionnaire Charles Marche, qui consacre dans le livre Impossible à Dieu, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, il a été missionnaire en Afrique du Nord, et puis il consacre un chapitre à la condition de la femme, et précisément ce chapitre a pour titre « Une femme liée par Satan ». Bon, mais vous savez, en Occident aussi, la femme, tiens-toi là, fais ci, tais-toi, serre-moi, n'est-ce pas? Et puis, il y a encore d'affreuses tendances, et puis ça peut arriver dans l'Église aussi, à rabaisser la femme ou à la diminuer. Satan a soumis la femme sous la main de l'homme, ce que je crois, comme il a soumis Israël sous la main de Pharaon. Ça n'annule pas ce que je dis, les différences entre hommes et femmes, bien sûr. Il y a différence, et qui dit différence de nature, dit différence de vocation. Mais ultimement, c'est le même statut, c'est fils et fille de Dieu. Voilà. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre. Et je crois que Satan tire avantage, lui qui est le diviseur, de la longue douleur d'un très grand nombre de femmes pour aujourd'hui, à travers des revendications, semer toutes sortes de confusions, surtout au niveau des genres. Mais c'est tout un autre débat. Mais c'est quand même intéressant de le relever dans ce texte. Parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui tient courbée cette femme. Alors il est dit qu'elle est possédée d'un esprit qui la rend infirme depuis 18 ans. Alors quel est ce démon qui courbe la femme? Est-ce que ce n'est pas un démon qui est passé à travers ce qu'ils disent de nous? Chez les Juifs, j'ai écouté un rabbin il y a peu de temps qui disait que tout ce que nous faisons, ce que les mouvements de notre cœur et l'usage que nous faisons de notre volonté pour aimer Dieu, pour le servir, pour servir le prochain, tout cela appelle des souffles. Alors c'est intéressant parce que les esprits, c'est souffle en grec et comme en hébreu, roi. Alors, il disait tout ce que ce rabbin expliquait que, voilà, quand nous faisons une bonne action en communion avec Dieu, eh bien, on appelle le souffle de Dieu. Et tout ce que nous faisons dans un sens ou dans un autre va appeler des souffles. Eh bien, on peut se demander, voilà, si ce qui courbe cette femme, ça ne tient pas au regard des autres, à l'attitude des autres à son égard. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le chef de la synagogue, il va être indigné. Alors, je reviens dans l'évangile de Marc, à cet homme qui a la main sèche et que Jésus guérit. Il est dit que Jésus fut indigné en son cœur à cause de l'endurcissement. Parce que ils viennent protester en disant « Mais il se fait guérir le jour du sabbat, venez un autre jour. » Voilà, une fois de plus. Le chef de la synagogue, il est indigné, voilà, mais cette indignation, elle est liée à l'endurcissement de son cœur. Mais il ne sait pas que Jésus aussi est indigné. Mais l'indignation de Jésus, elle n'est pas liée à une dureté de cœur, elle est liée précisément à sa tendresse de cœur. Alors, le zèle de ce chef de synagogue pour la loi, il ne fait que cacher la répulsion du Sauveur. Et c'est terrible, c'est terrible. C'est pour cela que Jésus dit « hypocrite ». Hypocrite, c'est celui qui porte un masque. Pour 24 heures seulement, on détache son âne le jour du sabbat. Pour 24 heures. Mais cette femme, elle en est à un sabbat plus 18 ans. Vous voyez? Alors, en espagnol, on dit « basta ». Voilà, je la rencontre aujourd'hui. Je la guéris aujourd'hui, après 18 ans d'accablement, mais je ne vais pas attendre un seul instant pour la soulager. Voilà. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Voilà. Il n'attend pas. Et puis que va dire Jésus? N'est-elle pas fille d'Abraham? Cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Laissez-la glorifier Dieu. Laissez-la glorifier Dieu. Ce passage, il a des parallèles frappants avec le cantique de Marie, le Magnificat. Vous savez, c'est dans le même évangile, évangile de Luc. Une louange ardente sort du cœur et de l'âme de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Alors ça, c'est quand... Et il n'y a pas eu d'intervention d'homme, là. Voyez, l'homme, il y est pour rien. C'est que la femme. La femme est l'ange. Et Marie reçoit cette promesse, donc elle va enfanter le Messie. Et quand sa cousine Élisabeth la salue, elle lui dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie va dire « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Il a jeté les yeux sur son humble servante. Alors, voyez, cette femme-là dans la synagogue courbée, et Jésus, le Sauveur, vient jeter les yeux sur elle. N'est-ce pas merveilleux? Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Et toutes les générations aussi ont appris au sujet de cette femme courbée. Voyez, quand on arrivera au ciel, peut-être quelqu'un, un ange, nous dira « Ah ben c'était elle dans l'évangile. » Eh oui, c'est des personnes réelles, voyez-vous. Toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Alors voilà, la louange qui monte. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Voilà. Alors là, à la synagogue, c'est la même chose. Alors là, il y a les sages, voyez, ceux qui ont des pensées orgueilleuses, ceux qui savent. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Voilà, cette pauvre femme, qui faisait cas à cette femme ? À peine si on se souvenait de son visage, on voyait le haut de son front. Qui faisait cas à elle? Il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, mais les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Cette fille d'Abraham, la postérité d'Abraham. Voyez les parallèles entre ces deux textes, la postérité d'Abraham. Quelqu'un disait, c'est un écrivain français athée du XXe siècle, j'avais attrapé ça à la radio, mais j'ai oublié le nom de cet écrivain. Il disait, quand j'écoute le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, je ne sais plus quoi faire de mon athéisme. Ben, il y a de quoi, voyez, ce renversement des normes. Ce Dieu-là, il est intéressant pour un athée. Ah, ça m'intéresse. Et puis, évidemment, Bach, un grand croyant, célèbre, et quelque chose de la gloire de Dieu passe. Alors, dans ces parallèles que l'on voit, il y en a un quand même qui mérite d'être relevé, et ça, c'est avec le psaume 146 qui a été lu tout à l'heure, précisément. Il est dit « L'Éternel protège les étrangers ». Ils soutiennent l'orphelin et la veuve, mais ils renversent la voie des méchants. Vous voyez, ça renvoie encore au Magnificat. Ils renversent les puissants de leur trône, mais ils soutiennent la veuve. Alors, cette femme, elle est seule, elle n'est pas référée à un homme, on ne sait pas qui elle est, c'est anonyme, c'est peut-être pour que nous nous reconnaissions tous. Mais elle est dans une condition où elle a besoin d'être soutenue. Et le psaume 145, juste avant, au verset 14, dit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. » Donc, ceux qui tombent sont soutenus par lui. Alors, nous qui sommes le peuple croyant, le peuple de Jésus, croyons que Jésus est au milieu de nous, comme dit l'Écriture, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à la consommation des siècles. » Croyons cela. Et le Seigneur relève ceux qui tombent, soutient ceux qui tombent. Et peut-être on tombe d'épuisement, physique ou moral, c'est possible. On tombe dans le découragement. On peut tomber dans une dépression nerveuse, une dépression spirituelle. On peut tomber dans la torpeur spirituelle aussi. De nos jours, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'anesthésiants. Et puis, dans le monde de l'entreprise, des fois on parle des têtes qui tombent, le chômage. Le Seigneur soutient ceux qui tombent. On peut tomber dans le péché. On dit, il est tombé bien bas celui-là. Oh, redoutable. Mais là aussi, le Seigneur relève, le Seigneur soutient. Être courbé. Le Seigneur redresse tous ceux qui sont courbés. On peut être courbé par le souvenir du passé, par un indescriptible accablement intérieur parfois. Sous le poids de nos fautes, on peut être courbé. On peut être courbé aussi sous les exigences du monde. Alors là, la publicité qui nous met « il vous faut ceci, il vous faut cela, il vous faut encore cela » parce que vous le méritez bien, n'est-ce pas ? On peut être courbé sous les exigences de la famille. Là, on peut avoir 50, 60 ans et puis encore dépendre de ce que disent les parents ou de ce que demandait le grand-père, le patriarche. Et puis on n'accède jamais à son autonomie. Être courbé sous le regard des autres. Est-ce qu'on peut plaire à tout le monde ? L'apôtre Paul disait « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Son souci, c'est de dépendre de Dieu. Parce que Dieu, lui, il nous veut debout. Irénée de Lyon, un père de l'Église, disait au IIe siècle « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Ben voilà, comment on va glorifier Dieu ? Ben en étant des vivants. Alors il a dit que nous aurions des tribulations cette vie. Il n'a pas dit que la souffrance nous serait épargnée. Mais il nous promet de nous relever. Voilà. Ne crains pas, crois seulement, dit-il au père accablé d'une enfant qui vient de mourir. Ne crains pas, crois seulement. Alors, vous vous souvenez même à cette femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Des fois, il y a la durée. Elle a duré 12 ans, 18 ans. Il lui dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Prends courage. » Parfois, il y a cette durée. Oui, mais c'est que ça fait des années. Quelqu'un me disait au téléphone il y a quelques jours que depuis sa petite enfance, il est dépressif. Alors, il est à la retraite maintenant, vous voyez. Et c'est dur, parce qu'il a été battu violemment par son père toute son enfance. Et puis apparemment, il a pas trouvé sur son chemin des personnes qui ont pu l'aider à rebondir. Mais ça fait une vie. Alors, il a pris son parti. Est-ce qu'on peut croire encore, quand on en est là, que l'Éternel peut nous relever ? Quelle vision avons-nous de Dieu ? Je crois en un Père qui nous fonde dans notre identité de fils et de fille de Dieu. Vous vous souvenez, Jésus à son baptême dit « Entends cette voix venant du ciel, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » La confiance de Jésus, on le voit à travers son ministère, sa force, comme il s'oppose, il ose faire face à la malveillance, à la mauvaise foi de ses ennemis, des puissants aussi. Son humilité, son assurance, son autorité, mais tout cela lui vient de sa relation au Père qui est nourrie de cette parole. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Pouvez-vous croire que Jésus vous dit à chacun de vous, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute mon affection. Le Seigneur vous dit cela. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, dit l'apôtre Paul. Vous avez revêtu le Christ, vous avez été immergés en lui, vous l'avez revêtu. Alors cette même parole vient sur vous. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Immergé en lui, régénéré en lui, habité par lui, nous pouvons dire « Abba Père, Abba Père » et nous laisser vivifier par le regard paternel de Dieu. En tant que fils et filles, nous oserons croire qu'une destinée originale, unique, vaste, elle s'ouvre pour chacun de nous. Et je vais vous dire, même si vous êtes à 6 heures de votre mort, voyez, les 6 heures qui vous restent à vivre, elles peuvent être magnifiques, elles peuvent être grandioses. Je crois ça. Quelqu'un me disait récemment, une femme qui a été riche dans le temps, riche avec une grande entreprise familiale, et puis les choses, les marchés se sont inversés, puis tout s'est effondré. Elle a vécu le chômage, elle a été rejetée par son mari, elle s'est retrouvée seule avec son fils, elle s'est retrouvée pauvre. Mais elle a un petit job maintenant, vous voyez, elle est en train de reconquérir, elle est passée par la dépression. Et puis, elle a un petit job, et elle me disait, quelqu'un qui me connaît est passé dans la boutique où je travaille, et m'a dit, mais tu rayonnes là-dedans. Elle m'a dit, je suis convaincue que chacun peut être un prince dans son petit monde. J'ai beaucoup aimé ça. On appelle ça peut-être la résilience. Bon. Parce que notre petit monde, il peut être une porte ouverte sur la gloire de Dieu. Aux États-Unis, je connaissais un franciscain qui disait, mais il faut trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. On peut. Et pas être écrasé ou aplatir notre vie par le regard qu'on porte sur elle. Quand Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre », c'est intéressant, jeter un feu sur la terre. Alors les disciples vont recevoir des langues de feu, vous vous souvenez, qui viennent se poser sur chacun d'eux à la Pentecôte. Le feu descend, mais le feu il a cette particularité, vous regardez une flamme, c'est que le feu monte, c'est contraire à toutes les lois de la pesanteur. Le feu monte. Voilà, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Le Seigneur élève les humbles, ceux qui savent s'émerveiller. Seuls les humbles peuvent réellement oser voir grand. Il y a un texte que j'aime beaucoup, un de mes auteurs préférés. Bon, j'ai beaucoup d'auteurs préférés, mais c'est peut-être un de mes auteurs préférés. C'est Maurice Zundel, c'est un Suisse. Maurice Zundel, c'est tiré du livre « Ta parole comme une source », 85 sermons inédits. Il dit ceci, « Au fond, si Dieu fait si souvent figure de rabougri et d'idole, c'est parce que nous sommes nous-mêmes rabougris. C'est justement parce que nous ne voulons pas conquérir notre dignité d'homme, notre liberté créatrice, parce que nous n'entrons pas dans la magnifique aventure de la vie. Alors, naturellement, Dieu devient un petit bon Dieu de rien du tout. Un bonhomme, oui, une bonasse qui finalement est une idole et un faux Dieu. Le vrai Dieu, il exige pour être connu que nous grandissions sans fin. C'est d'ailleurs ce que nous dit saint Paul, que nous sommes appelés à acquérir toute la stature de l'humanité dans le Christ Jésus. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à croire que une vie de lumière vous est destinée. Que vous pouvez resplendir ici et maintenant, où vous en êtes. Osez croire. Il y a trop de propos trompeurs en ce monde. Et peut-être qu'il y a une épidémie thérapeutique actuellement. On est beaucoup dans le compassionnel. Mais fasse Dieu que se multiplient les thérapeutes qui sont des semeurs d'espérance et qui sont capables de remettre debout, de donner des paroles qui permettent de rebondir. Je disais récemment à une femme qui... Oui, je suis obligé d'être discret, qui a connu dans sa vie mais des choses absolument écrasantes. Elle a été comme foulée aux pieds dans sa dignité pendant de longues années. Et puis je lui disais, l'appel et la vocation de Dieu sur votre vie, mais reste intact. Il y a quelque chose de magnifique pour vous. Osez le croire, vous allez passer à travers cela. Vous allez passer à travers cela. Et j'essayais de semer la foi en elle, parce que je voyais bien qu'elle adhérait par son intelligence à la foi, mais ça n'arrivait pas à descendre dans son cœur. Et alors là, quand c'est comme ça, par tous les moyens, je sème la foi, je sème la confiance, je sème l'espérance. Et puis, puissions-nous non seulement croire que Dieu, pour nous, peut faire quelque chose de beau et de magnifique, mais que Dieu, à travers nous, fera des choses belles et magnifiques envers les autres. Parce que, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous ai envoyé, dit Jésus. Comme Jésus, ce regard bienveillant du Père qui se penche sur l'humanité, il envoie l'Église pour être ce regard bienveillant du Christ sur le monde. Osez croire, osez croire. Des temps difficiles pourraient bien venir. Et il faudra oser croire, il faudra vivre de ce regard, il faudra vivre de l'esprit de Jésus, voyez. Et les angoisses, dit la fin de l'évangile de Matthieu, les angoisses saisiront les entrailles des êtres humains. Mais à nous qui sommes croyants, nous pourrons regarder vers lui et resplendir, psaume 134. Là, j'ai vu le psaume 134, là, un extrait. Il est dit « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. » Ou une autre version, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Comme cette femme courbée dans la synagogue, Jésus nous appelle. Osons lever les yeux vers lui, laissons-nous redresser par lui. Je finirai avec un mot de Paul Tournier. Vous connaissez Paul Tournier, psychologue genevois, voilà, croyant. Il dit, il arrive qu'un homme pensé à Clémenceau, à Churchill, à Lincoln, à Guillaume Tell, qu'un homme éveille dans son peuple un dynamisme prodigieux qui lui assure la victoire en dépit d'un armement matériel inférieur à l'ennemi. Il y a eu là communication d'une force de guérison. Voilà. Alors, quelles que soient les circonstances, osons croire cette parole du Seigneur qui nous dit « Ne crains pas, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Laissons-nous redresser par le Seigneur, resplendissons de sa gloire. Amen.